question se pose toujours actuellement, c'est qu'est-ce que, peut-être qu'elle se pose encore beaucoup plus actuellement qu'il y a 20 ou 30 ans, c'est qu'est-ce que ce discours nouveau, qu'est le discours analytique ? J'insiste bien, hein, c'est des mots qui sont chargés, discours analytique. Bon, analytique, c'est psychanalytique, bien sûr, mais le discours, ce n'est pas des connaissances. C'est-à-dire que dans ce que l'on appelle l'expérience du transfert, qui est propre à chacun, va se développer un lien, quand c'est un lien social, tout à fait singulier, qui ne peut pas être prévu, qui ne peut pas être défini par des règles, même s'il y a quand même ce qu'on appelle un cadre, mais qu'est-ce que c'est que le cadre, sinon, on va dire le désir de l'analyste. Voilà. Donc ce n'est certainement pas des choses qui sont déjà définies, à savoir tel type de névrose, tel type de psychose, tel type de perversion. Avec ceux-là, il faudrait faire d'une certaine façon. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On ne part pas des symptômes. On part, effectivement, on pourrait dire que c'est une sorte de... C'est une aventure, c'est un voyage. On part de ce qui va pouvoir se dire. Se dire. Alors, quand je dis se dire... Ça signifie qu'effectivement, ça ne va pas de soi du tout ce qui peut se dire. Ça ne va pas de soi. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas ce qui va être dit, énoncé, raconté qui est important. Et pourtant, il faut bien passer par là. Il faut passer par les mots. Et vous savez les difficultés qu'il peut y avoir à... Eh bien, laisser sortir des mots. Pourtant, ce qui est attendu, justement, c'est pas de trouver quelque chose qui serait, comme moi je l'ai cru un temps, hein, il y a longtemps, comme on peut entre le croire, de trouver comme ça un événement traumatique, originel. Il y aurait eu une scène traumatique, c'est ce que Freud va chercher. Trouver, construire, dans les années 1913, avec un patient qui est d'origine russe, de l'aristocratie russe, qui est devenu du coup une momie psychanalytique, qui s'appelle l'homme au loup. Parce que Freud, il était poussé par quelque chose, mais du coup, il était peut-être un peu trop poussé par trouver ce qu'il cherchait. Enfin, il était seul, pour avancer. Donc, ce qui est en jeu, en fait, c'est que quelque chose puisse se dire. J'insiste sur le mot « dire ». Alors, le dire, c'est quelque chose qui ne se dit pas avec un « dit ». C'est pas pour rien que c'est un infinitif dans la langue. Hein? Si vous prenez infinitif, vous avez l'infini qui est dedans. C'est-à-dire que c'est sans limite un infinitif. Le rêver, c'est pas un rêve. Hein, quand Freud utilise à quelques reprises ce mot d'Astreumen en allemand, le rêver, notamment dans un texte dont on a déjà parlé, qui est les limites de l'interprétation, un texte de 1922, quand il dit que le rêver appartient à une catégorie qui n'est pas la catégorie où il s'agit de communiquer, mais qu'il appartient à ce qu'il appelle Spielen und Fantasien, c'est-à-dire quelque chose qui renvoie au jeu, et alors la traduction, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est pas forcément le fait de fantasmer. Hein. Ce qui est important dans le rêve, ce qui va immédiatement apparaître sous la plume de Freud à ce moment-là, c'est le fait que le rêve, l'intérêt du rêve, c'est de produire ce qu'il va appeler un unmittelbar Lustgewinn, c'est-à-dire un unmittelbar immédiat, Lustgewinn, un gain de jouir, un gain de plaisir. C'est compliqué dans l'anglais allemand le mot Lust. Hein. En allemand, c'est plaisir. Mais on peut, avec Lacan, parler de ce qu'il va appeler le plus de jouir. Et nous sommes articulés, alors on revient au fait de parler, du fait que nous sommes des êtres parlants, qu'il faudrait plutôt appeler des êtres parlés. Et c'est pas tellement le participe présent, c'est plutôt le participe passé. Du fait que nous sommes des êtres parlés, nous sommes l'effet de quelque chose sans qu'on y comprenne grand-chose, sans qu'on puisse y comprendre grand-chose. Nous sommes l'effet de quelque chose qui est la conséquence de l'entrée en jeu du langage. Ce qu'avec Lacan, on va appeler la structure. Tout ça, c'est des mots assez précis. Je ne vais pas trop détailler ça, mais je voulais rappeler ça parce qu'autrement, on parle de quoi ? On parle de ce que quelqu'un a dit, par exemple. C'est vraiment pas ça le problème. On va faire, par exemple, l'histoire de quelqu'un à partir de ce qu'il raconte. Je dirais un peu comme on fait une observation en médecine, en psychologie, etc. C'est pas ça l'important du tout. Hein, puisque ce lien social, il se passe entre deux êtres parlants. Ce qui est supposé, c'est qu'il y en a un des deux qui est un peu en avant. C'est ce qu'on appelle l'analyste. Et qui sait un petit peu quelque chose, qui n'est pas sans savoir quelque chose, de cet insaisissable qui s'appelle l'inconscient. Puisque l'inconscient, dans cette perspective-là, c'est évidemment pas quelque chose qui est caché, qui renferme une sorte de cassette, qui renferme un secret de famille qu'il faut trouver pour que ça avance. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, ce serait plutôt ce qu'on peut appeler, me semble-t-il, moi je ne connais pas bien ça, mais toutes sortes de thérapies, style hypnose ou autre chose, qui essaient de retrouver quelque chose. Enfin, Freud est passé par là parce que quand on fait une analyse, on croit mordicus à ça parce qu'il faut bien passer par là. C'est obligé. Hein. Parce que dès qu'on se met à parler, il y a une sorte de mécanique qui se met en route et on revient sur quoi ? Sur ce qui s'est passé, sur ceci, c'est comme ça. On revient là-dessus. Hein. La différence avec le fait de parler comme ça, dans un confessionnal, ou bien sur la place publique, hein, c'est que celui à qui on s'adresse, il nous laisse parler. Et qu'il n'intervient pas pour rajouter ou pour nous contredire. Donc, ça, c'est énorme, parce que, du coup, ça va pouvoir permettre que se déploie quelque chose, ce qu'on appelle des associations, évidemment qu'on a dit libres, mais qui justement ne sont pas libres du tout, puisqu'elles sont déterminées par ce qui est, on va dire, au cœur des mots. Pour autant que le mot, alors, la dernière fois on disait le verbe, est quelque chose qui est un mixte composé de sons et de sens. Et on a appris très tôt que ce qui prévalait, c'était le sens, et non pas le son. On a appris ça, voilà, c'est comme ça. Hein. Et on pourrait presque dire aussi que le tout petit, très tôt, il rencontre, parce qu'au début, il est surtout dans le son, évidemment, hein, il va rencontrer, ça c'est quelque chose assez terrible, de par un certain fonctionnement du langage, il va rencontrer qu'il y a un ordre qui est établi. Voilà. Et il va y tenir à l'ordre. progressivement. Et il faut bien qu'il y tienne, non seulement par le développement psychomoteur pour se tenir assis, debout, etc., marcher, parce que c'est un ordre qui définit ça, mais aussi par le fait que, comme ça, progressivement, ben, il y a ce que Freud va appeler la surmoi, qui d'emblée est là, quoi. Hein, il appelle la gourmandise du surmoi. C'est que on rentre là-dedans, on n'a pas d'autre choix que de rentrer dans cet ordre établi, et en plus on y tient parce qu'il faut passer par là, on ne sait pas bien pourquoi. Alors ce qu'on essaie de remuer ici, enfin moi ce que j'essaie de remuer dans mon séminaire, notamment cette année, c'est que cet ordre établi et un certain type de jouissance, hein, à prendre au-delà du sens habituel, du sens commun, on va revenir sur le sens commun, il y a donc un certain nombre d'ordres de jouissance qui va se développer avec cet ordre établi. Je crois que c'est ce que Lacan va appeler la jouissance phallique. Oui, les mots sont aussi assez définis. Et puis, voilà, et puis, il y a une jouissance qui progressivement va perdre de son poids, qu'on peut appeler la jouissance du corps. Alors il faut définir aussi ce que c'est que le corps. Pour un, en regard du langage, le corps, c'est pas le corps tel qu'il est défini habituellement, tel qu'on le voit chez quelqu'un. Le corps, c'est pas ça. C'est ce qui se passe quand quelqu'un parle. On pourrait dire qu'une certaine façon de s'en approcher, c'est de parler de quelque chose qui est une métaphore quand on dit que quelque chose a du corps. Le mot en lui-même en dit quelque chose. En fait, le corps, c'est quoi ? C'est la marque, de ce qui peut porter le fait que cette marque, elle soit inscrite dans l'articulation entre les signifiants. Alors, vous voyez qu'on est complètement dans un autre registre. Alors, la psychanalyse, c'est ça son champ. C'est pas d'aller dire que les scientifiques devraient parler autrement. Les scientifiques, ils sont dans leur logique, il faut les laisser aller comme ils vont. Et leur truc. Et les psychanalystes, ils parlent d'une chose simple, importante, qui est la découverte de Freud. Il ne l'a pas dit comme ça. C'est Lacan qui le dit. L'inconscient est structuré comme un langage. C'est-à-dire que ce qu'il importe pour le psychanalyste, c'est la dimension de l'inconscient. Donc, vous voyez, le langage. Et du coup, on peut, alors, un petit peu mieux se repérer, pas uniquement imaginer que si Freud, à un certain moment, à Vienne, se met à écouter des hystériques, etc., peut-être parce qu'il ne voulait pas faire de la médecine habituelle, ou parce que je ne sais pas quoi, parce qu'il se passait je ne sais pas quoi, à Vienne peut-être, mais ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'on peut penser que, de même qu'à la fin du XIXe siècle, il y a des découvertes qui apparaissent au niveau des mathématiques, c'est notamment Cantor, la théorie des ensembles, et l'infini, les nombres réels, tout ça, qui vont complètement bouleverser la mathématique. Ça n'empêche pas qu'on continue à apprendre les mathématiques comme avant, actuellement, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Et puis, on va trouver pareil en physique, la relativité. Il y a un certain nombre. En musique, c'est pareil, c'est notamment la musique dodécaphonique de Schoenberg, il y a comme ça un certain nombre de choses. Ça se passe un peu tout au même endroit, c'est vrai. C'est en Allemagne, c'est dans l'Empire austro-hongrois, c'est vrai que ça se passe un peu tout au même endroit. Et puis, il y a Freud à Vienne, donc c'est assez curieux. Il s'est passé quelque chose. Mais si on prend la référence strictement historique, vous voyez, on n'est plus dans le langage. Ce qui va être important, c'est comment tel ou tel peut parler de ça. Alors, il peut parler en pensant qu'il explique quelque chose, mais que quand il parle en pensant qu'il explique quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui, en fait, tourne, sans qu'il s'en rende compte, sans qu'il sache. Et tout d'un coup, ça peut apparaître parce qu'il fait un lapsus. C'est ça qui est attendu. Voilà la question du discours, la question et l'importance du discours analytique. Hein? C'est pas un disque. Le disque qui tourne, le disque qui court, C'est pas un disque, comme dit Lacan. C'est pas ça. C'est pas le disque, le discours, hein, et la richesse de la langue. Hein. C'est qu'il y a quelque chose, du fait que nous sommes des êtres parlants, peut être établi ce lien social particulier, et c'est seulement quand ce lien social est établi que ce que l'on appelle l'inconscient, c'est-à-dire un savoir, peut exister. Ex-exister. Il n'est pas là. C'est un savoir qui renvoie à un ailleurs. Donc vous voyez l'importance, c'est-à-dire que c'est pas d'entendre je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas qui a dit que je ne sais pas quoi, ce je ne sais pas quoi, c'est le fait que quand je me mets à dire ce que quelqu'un a dit, je suis considéré comme un être parlant, je peux être entendu par quelqu'un comme un être parlant, et que être parlant, ça veut dire cette mixité du son et du sens, et qu'il y a quelque chose de la langue qui peut me traverser à ce moment-là. Et que si ce quelque chose me traverse, ça veut dire que quelque chose a été touché, pour ajouter du doigt. Et donc, que quelque chose que je ne savais pas que je savais, mais ça n'est pas de la connaissance, c'est un savoir, il y a une différence entre la connaissance et le savoir, à tel point qu'on peut dire ceci, c'est que si c'est si difficile entre l'homme et la femme, on peut partir déjà de la répartition à l'état civil, l'homme et la femme. Ça n'empêche pas que des hommes peuvent être du côté des femmes. Par exemple, Jean de la Croix, c'est Jean de la Croix mystique. Ça n'empêche pas que un certain nombre de mâles peuvent être aussi, autant que, on va dire, de femelles, hein, de femelles parlantes, on va prendre ça comme ça, quand il dit comme ça, les animaux parlants. Alors, que les mâles parlants peuvent aussi être affublés de cette dimension du féminin, et que c'est ça l'intérêt. Sinon, on retombe toujours dans cette répartition entre d'un côté l'homme, de l'autre côté la femme, qui est une répartition scientifique, psychologique, univers, tout ce qu'on voudra. Hein. C'est assez facile, à définir. Si on part du langage, c'est autre chose, c'est ça que j'insiste bien, qui est engagé. Et c'est autre chose, pas par ce lien social particulier, qui est aussi un lien politique, parce que vous voyez qu'à ce moment-là, eh bien, on n'a plus le même rapport au monde. On ne fait plus pareil, on ne fait plus la même chose de l'autre. C'est ça la dimension politique. Ce n'est pas dénoncer à nouveau des bonnes intentions, qui finalement sont là uniquement pour couvrir nos exactions, évidemment. Humain, c'est fait pour couvrir quelque chose, par définition. Je ne comprends pas pourquoi ça aurait un autre rôle. Bon. Alors, on va revenir à ce discours nouveau qui apparaît. J'ai déjà dit, mais je reviens dessus, qui apparaît à un certain moment, effectivement. Je pourrais dire dans l'histoire, non, qui apparaît à un certain moment. Pourquoi, on ne sait pas. Mais ce qui est à peu près sûr, on peut dire, de par ce que développe ce discours nouveau, qui est le discours analytique, c'est que ce qu'il va permettre, parce que c'est ça l'important, hein, l'inconscient finalement, il fonctionnait, il était entendu avant Freud. Hein, on ne va pas se référer uniquement au mot inconscient, unbewusst, etc. Dire que c'est un substantif ou un adjectif, c'est un peu trop simpliste, ça tourne court. Ça. Mais l'inconscient, il fonctionnait, bien sûr, il était entendu avant Freud, hein, c'est évident. Mais ce qu'apporte de nouveau Freud, mais c'est Lacan qui va le dire, qui va le trouver dans le dire de Freud. Freud ne le dit pas. Pourtant, c'est dans son dire, ce qu'on appelle son énonciation. C'est que il est possible qu'advienne un discours que vous appelez discours analytique, qui est nouveau au sens où il n'est jamais apparu. C'est du nouveau. Et ce qui est nouveau, c'est que par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, il va procurer la jouissance qu'il faut pour que la vie continue. Voilà, c'est pas la médecine qui consiste à, à thérapiser. C'est pas ça du tout. Alors qu'est-ce que c'est que la jouissance? C'est compliqué. Et bien, je crois qu'on découvre un peu ça quand on fait une analyse en parlant. On découvre ça. On découvre qu'il y a quelque chose qui nous anime. Et je crois qu'on le découvre, ça, ce dont j'essaie de parler, parce que c'est difficile de vous en parler, hein. On découvre qu'on a un certain rapport à cette chose très précaire qui est la jouissance, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est vraisemblablement là, mais je ne veux pas faire de l'histoire non plus, parce que ça fait tout de suite développement psychomoteur, hein, qui est vraisemblablement là, tout à fait au début. Hein. Mais au début, tout est là aussi. Il n'y a pas à un moment quelque chose, et puis un autre, après, et puis après. Ça, c'est de la psychologie. Donc, trouver la jouissance qu'il faut pour que la vie continue. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qu'on peut penser, du coup, c'est que le développement scientifique devient tel que les êtres parlants sont quasiment étouffés, et donc ils font des symptômes. Ils sont étouffés par quelque chose qui n'arrête pas, on va dire comme ça, j'ai entendu un exemple, qui n'arrête pas de les bouffer. Par exemple, la télé qui nous bouffe, quoi. Il nous bouffe parce qu'elle nous bouffe notre temps, parce que ça, puis on y va, quoi. Il y a quelque chose en nous qui est d'accord avec ça. Même si on se l'interdit, c'est pas le problème. Donc, il y a quelque chose qui va apparaître du côté de ces gadgets plus ou moins importants dont on a besoin, on est très content d'avoir des iPods, d'avoir tout ça, c'est pas le problème. Hein, on va peut-être y passer un peu de temps si on n'y connaît pas grand-chose. Enfin, néanmoins, c'est très agréable d'avoir ça parce que ça peut nous permettre de travailler, de faire toutes sortes de choses. Enfin, c'est mon cas dans le train ou ailleurs, parce que je veux dire, c'est très intéressant. Néanmoins, il faut savoir qu'on le paye d'une certaine façon. Et ce que je suppose, c'est que la psychanalyse de l'avenir, si elle reste là où elle doit être, c'est-à-dire dans cette dimension de discours analytique. Le psychanalyste, il ne va pas revendiquer quoi que ce soit, il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour ça. D'une part, et la grande énigme, on en a parlé la dernière fois, c'est qu'est-ce qui fait le discours scientifique. Un discours scientifique, entendons-nous bien, hein, c'est pas uniquement celui qui est fait à la faculté. À l'IUT, je ne sais pas où le discours scientifique, il est là. Dès que je me mets à compter, je suis dans le discours scientifique. Hein. Dès que vous remplissez vos papelards, je ne sais pas quoi, d'évaluation, de trucs. C'est ça le discours scientifique. C'est la réglementation, c'est tout ce qui s'évalue. C'est ça le discours scientifique. Hein. Tout ce qui est mesurable, tout ce qui s'évalue, et tout ce qui est fait partie, qui rencontre de quoi? De quelque chose qui est un fantasme extraordinaire, qu'il y a quoi? Du tout. Il y a du tout. Il y a du tout. Et bien ça, c'est quelque chose. Le totalité, il n'y a pas besoin de partir sur le totalitaire avec la politique totalitaire, hein, je veux dire, qu'on soit de droite, de gauche, ça ne change strictement rien parce qu'on est foutu là-dedans. Quand je vous disais tout à l'heure, l'enfant, le tout petit, il tient à l'ordre établi, il est déjà dans le totalitaire. Alors après, il va peut-être le refuser, il va peut-être. Alors il va. Bon. Il va développer toutes sortes de symptômes, parce que les symptômes, c'est une façon, effectivement, de ne pas être absorbé ou absorbé, de dire oui ou de dire non à quelque chose, évidemment. Hein. Mais, néanmoins, il y a ce quelque chose, je reviens là-dessus, cet ordre établi, incontournable. Incontournable parce que il faut bien rentrer là-dedans. Le problème, c'est qu'est-ce que va devenir le rapport à la jouissance qu'on appelle autre, grand A. C'est-à-dire cette jouissance dont je parlais, je pense que c'est ça qu'on trouve sur un divan. C'est ça qu'on trouve sur un divan. Alors on pense qu'on découvre toutes sortes de choses. Bien sûr, c'est vrai, mais ce qui est trouvé, c'est un autre rapport A. C'est-à-dire que ceux qui y sont, ils savent bien au bout d'un certain temps, ils ne savent pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne plus comme avant. Tout simplement. Alors si on leur demande d'expliquer, ils vont faire comme beaucoup de gens, comme moi aussi, on ne va pas fouiller, on va utiliser des mots. Dès qu'on utilise des mots, on bafouille, évidemment, surtout si on parle très bien, parce qu'on est toujours à côté. On est à côté de ce dont il s'agit, en fait. Néanmoins, il faut bien passer par les mots. Alors là, soyons sérieux, le féminin, c'est ce qui est exclu de la nature des choses, qui est la nature des mots. Donc, le féminin, je ne parle pas de l'état civil, hein. Il y a des caractères sexuels secondaires et tertiaires, c'est pas de ça dont je parle. Le féminin, alors, on n'a pas le temps ce soir d'aller trop loin, mais la dimension du féminin, c'est pour ça que, c'est pas d'être sous la bannière de l'état civil, homme ou femme, qui définit le féminin. Le féminin, c'est en rapport avec cette autre jouissance, cette jouissance autre, qui fait dire qu'il n'y a effectivement pas de rapport sexuel, on n'est pas du tout dans la sexologie, hein. C'est-à-dire que l'homme, celui qui est, qui se dit comme tel, hein, celui qui a rapport au tout, c'est ça l'homme, le rapport à la totalité, au totalitaire, est radicalement séparé de cette autre, on va dire jouissance, qui est ce que Lacan va nommer le « pas tout ». Mais la femme, elle est à la fois dans la jouissance du tout, ce qu'on appelle la jouissance phallique, seulement elle a un supplément de jouissance qui est celle du pas-tout. Alors, comment quelque chose peut marcher? Ça c'est la vie de chacun dans sa rencontre avec le partenaire du même sexe ou d'un autre sexe. Parce que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que finalement, vous voyez bien, on ne sait plus ce que c'est l'hétérosexualité et l'homosexualité. On peut la définir, mais on sait, il n'y a plus ceux qui sont hétéros et ceux qui sont homo, hein, puisque les bornes entre les deux, ce n'est pas évident du tout. Hein, sur le plan du psychisme, hein, et en fait, sur le plan du psychisme, ça n'a absolument aucun intérêt. Puisque l'intérêt, c'est d'être à la fois du côté de la totalité, en lui a la jouissance, et aussi du côté de ce qui est supplémentaire à la totalité. À partir de là, il est possible d'avancer un petit peu autrement, en direction de ce qui est en jeu, chez l'être parlant, sans qu'il le sache, à savoir ce point qui est aussi une découverte de la psychanalyse, je crois que j'en ai déjà parlé ici, ce point de suspicion qui va apparaître, que Lacan va pointer comme tel, c'est le cas de le dire, entre l'imaginaire, c'est-à-dire l'enveloppe, et l'objectita, c'est-à-dire l'objet cause du désir. Je m'explique. Lorsque je parle, j'en reviens toujours au discours, hein, j'en reviens pas au fait de voir quelqu'un, bon, c'est pas ça du tout dont on parle. Hein. C'est pour ça qu'on fait jamais des remarques sur la façon dont quelqu'un est habillé ou je sais pas quoi. Ce qui compte, c'est ce qu'il peut dire. Donc, quand quelqu'un se met à parler, en fait, il y a à la fois une certaine consistance, qu'on va appeler imaginaire, c'est-à-dire tout ce qui est lié au sens, qui va se développer, hein, comme je suis en train de le faire pour le moment, plus ou moins compliqué, etc. En pensant un peu, je ne sais pas à quel moment je pense, si je pense au moment où je parle, je sais, on ne fait pas trop avant, hein, puisque j'improvise un peu. Non. Eh bien, à partir du moment où je parle, vous entendez ma voix, c'est-à-dire le son, vous entendez le sens. Alors, il y en a qui peuvent être plus sensibles au son, au sens, ça dépend un peu des affinités. Et il y a quelque chose qui ne peut pas s'entendre et qui est ce qu'on appelle, en psychanalyse, avec Lacan, l'objet voix. Ça ne s'entend pas. Ça n'est pas de l'ordre du son. Et là est la différence entre le discours analytique et le discours scientifique. Le discours scientifique, c'est le son. Et il va mesurer, évaluer, apprécier, c'est l'IRCAM. Apprécier toutes sortes de choses là-dessus, à savoir qu'il faut faire telle ou telle chose pour avoir. C'est très bien. Il faut bien les laisser aller là parce que c'est très important. Mais c'est pas là qu'est le psychisme humain. C'est pas là qu'est l'avenir de l'homme, on pourrait dire, et de la femme, et de leur rencontre. C'est toujours par hasard. C'est dans le fait que, quand je parle, là, maintenant, quand je bafouille plus ou moins avec des mots, que je vous ai dit, quand on utilise des mots, bafouille. Alors, l'expérience de la voix qui chante à l'opéra, c'est cette mixité extraordinaire entre le son, bien sûr, et quand on chante, chaque son qui est émis, il faut toujours que le son qui suit soit en avant du son qui précède. C'est-à-dire qu'on est toujours en marche. Hein, c'est pas comme ceux qui chantent à la télé avec un truc, qui sont comme ça et puis qui rabassent. Hein. On est toujours, c'est vrai, c'est épuisant. C'est le corps qui y va. Comme quand je suis un peu en train de vous parler, hein. Ceux qui me connaissent, quand je vais aller la voir, ça s'entend. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui saisit. Hein. Mais c'est pas ça la voix comme objectif. Hein. C'est pas le son. C'est autre chose. Ça va me permettre de vous faire comprendre ce que c'est, ce qu'on appelle l'image culturelle. C'est-à-dire que la voix, comme objectif A, on pourrait dire pareil du regard, on pourrait dire pareil de ce qu'on appelle les fesses et puis le sein, c'est pas du tout le sein, les matières fécales, ça c'est du sens commun le plus débile, quoi. Qui est véhiculé, évidemment, c'est facile à comprendre. Mais la voix, c'est quoi? C'est ce qui peut être la scansion, c'est-à-dire l'interruption. Scandere, ça veut dire monter, c'est un peu la latence, la scansion. La scansion avec laquelle tout ça, tout ce que j'essaie de vous dire, je ne sais pas ce que j'essaie de vous dire, puisque je n'ai pas de papier, mais il y a quelque chose qui se précipite plus ou moins. Tout ça là, eh bien, tout ça, je vous le raconte. C'est ça la voix. La voix, comme objectif, a un rapport avec le temps. Et vous voyez que là, il faut bien différencier le discours analytique, où c'est ça qui est en jeu, ce qu'on appelle la voix comme objet cause du désir. Et puis, effectivement, la voix, telle qu'elle était élaborée, sur le plan du discours scientifique, qui sera le son, le sonore, les sirènes, pourquoi pas. L'esprit s'accroche comme ça, embarqué par la voix des sirènes, le charme, etc. Mais ce n'est pas ça la voix au sens. Et pourtant, on peut aller plus loin. Vraisemblablement, c'est ça qu'on peut entendre parfois dans les moments particuliers, à l'opéra, quand le chanteur n'est pas trop poussif, parce que ça existe aussi, ça, hein, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de corps. Hein. S'il n'y a pas des micros, ils n'entendraient pas beaucoup. Hein. Je vais m'arrêter de glisser. Eh bien, on peut dire que, parfois, il y a une sorte de... On va prendre des mots comme ça, une sorte de mariage heureux entre cet objectif-là, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que quelque chose, sans que vous en rendiez compte, parce que vous aussi, si moi, en parlant, j'essaie de mettre en jeu cet objectif-là, automatiquement, c'est ça le lien social, celui qui écoute, il va être convoqué, là. C'est logique. Alors que si celui qui parle, il se met à se torturer pour sortir un discours là, très élaboré, qui en fait est une histoire de machin, où il s'agit de vous donner de la nourriture comme ça, bien déjà préparée pour que vous compreniez, hein. Moi, il n'a encore comprené pas, parce qu'il n'y a rien à comprendre, justement. Il n'y a rien à comprendre que celui qui a parlé, eh ben, il s'est arrangé pour quoi faire? Pour se mettre en retrait, c'est tout. C'est qu'il ne s'est pas engagé du tout. Il a raconté des trucs, il a raconté des histoires. Mais très intelligente, hein. Très, très intelligente, les philosophes. Très intelligente, par exemple. Hein. Mais il y a quoi dedans? Il n'y a rien. C'est-à-dire que 3 ans après, le même va dire autre chose, mais toujours sur le même mode. Parce qu'on découvre, là on peut trouver ça au théâtre, c'est vrai. Mais pour moi, ce qui est vraiment tout à fait important, et je vous invite à aller à l'opéra, mais il faut choisir un peu, il faut connaître un peu les chanteurs. Hein. Quand vous entendez à un certain moment quelque chose de cet ordre, alors évidemment, c'est ma sensibilité, c'est plus avec des ténors lyriques que des barytons. Hein. Pourquoi pas? Des ténors lyriques, c'est-à-dire les voix aiguës, ou alors des sopranos, des tessitures comme ça, particulières, toujours dans l'aigu, pas les mezzo-sopranos. Il y a un moment, bien sûr qu'ils racontent quelque chose, bien sûr qu'ils chantent quelque chose qui est écrit sur une partition, mais c'est pas ça la musique. La musique, c'est pas ce qui est écrit sur la partition. C'est pas ça. La parole, c'est pas les mots qui sont écrits sur le truc. Là. C'est pas ça la parole. c'est ce qui va passer par le corps. Eh bien, il peut arriver à un certain moment, effectivement, que ce n'est pas le chanteur qui va s'en rendre compte. C'est le récepteur, en l'occurrence, vous, si vous êtes... on entend ça, quoi. Ça dure même pas une seconde. Donc, est touché par quelque chose d'insaisissable, qui est... Enfin, ça, c'est mon projet de travail, qui est la rencontre de cet objet vital qu'on appelle la voix, et puis la dimension du sonore, qui est, c'est une chose extraordinaire, je dirais, puisque si vous avez suivi, c'est à peu près ça que j'ai dit, qui est la rencontre du discours scientifique et du discours analytique. Ce qui est absolument impossible, ça ne doit jamais se rencontrer, cette affaire-là. Jamais. C'est pas possible. Eh bien, ça peut venir comme par hasard. Et ça s'appelle l'amour. C'est ça l'amour, c'est pas l'amour narcissique, ça s'appelle l'amour. De la même façon, c'est ce qui peut apparaître, bien sûr, entre un homme et une femme. Pour autant, vous voyez qu'il importe que celui qui est le mâle parlant, et la femelle parlante, il ne soit pas complètement identifié, on appelle ça, hein, c'est ça, à leur féminité ou à leur masculinité. Parce qu'autrement, c'est la catastrophe, ça ne va plus. Parce que chacun est finalement dans une case différente. Alors, il y en a qui essaient de séduire l'autre, et puis évidemment, l'autre, il a peur, etc. On n'en sort plus, vous connaissez ça sans doute, aussi bien que moi, mais on n'en sort plus, alors qu'en fait, il y a quelque chose qui peut s'engager à condition qu'on revient à ce point dont j'ai du mal à parler, parce que évidemment je vais essayer de le faire vibrer, de l'animer devant vous, ce point de suspicion qui est entre l'imaginaire et le réel symbolique, qui est ce quelque chose qui, ce qu'on appelle l'apparition du réel, qui est au cœur même de tout ce qui peut apparaître dès que quelqu'un se met à parler, peut apparaître. Et quand ça advient, on pourrait dire que les deux types de jouissances dont je vous ai parlé, c'est du même ordre. Mais, et vous voyez bien que ça peut pas, ces deux-là, c'est le cas de le dire, hein, celles-là, les deux jouissances-là, elles ne peuvent pas se rencontrer sur un plan. Ne serait-ce que parce qu'il y en a une qui n'est pas déjà sur le plan. Mais, et on revient au titre du séminaire, c'est hors du deux, deux à écrire comme on veut, avec un apostrophe, l'apostrophe ou pas, c'est la dimension du trois. C'est-à-dire qu'il y a le trois d'abord, les trois, hanter le réel, c'est ça, il y a le trois d'abord, et que c'est en regard de ça que tout ce qui peut advenir, et on n'est pas dans la pensée. Pensée, on en a besoin. Hein. La pensée, c'est notamment encore que ce qui va permettre le développement du discours scientifique. On sait bien que les grandes découvertes, elles ne surviennent pas à ça, effectivement. Puis que celui qui porte ça, pensez à celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, Cantor, il a fait un état dépressif carabiné. Hein. Alors, est-ce que c'est lié à sa découverte? Est-ce que c'est lié? Ils sont complètement isolés, ils se demandent où ils sont. Ils n'ont plus rien qui les tient. Hein. Einstein, quand il en parle, il dit aussi des choses du même ordre. Je ne parle pas de Schoenberg en musique, de décaphonique. Hein, je veux dire, il suffit de dire ce qu'il a écrit en 1908 quand il essaie dans l'angoisse, dans la grande angoisse, il arrive à écrire, je crois que c'est le deuxième quatuor à cordes, enfin je ne sais plus lequel est-ce. Hein, et puis Freud, bien sûr. Hein, donc, quand on touche à ce point-là, qui est quoi? Qui est ce qu'on appelle la vie, finalement? C'est ça, la vie. Hein, c'est ça, la vie. On ne sait pas ce que c'est que la vie. Mais je crois que c'est quelque chose de cet ordre. Hein. Et là, on s'écarte de la vie des... La vie qu'on appelle habituellement la vie. Hein, on connaît comment? À partir de l'animal, c'est-à-dire à partir de ce qu'on observe chez un animal. Hein, les histoires, toutes les histoires de la dimension cellulaire, etc. Avec l'ADN, tout ça, ça vient de... Hein, on n'a pas le droit de faire des expériences sur les humains en plus. Donc vous voyez, l'être parlant se différencie de l'animal, c'est-à-dire l'animal parlant que chacun d'entre nous se différencie du fait qu'il y a du 3, c'est-à-dire du langage. Et le langage est une énigme, on ne peut pas le saisir comme tel. Et l'inconscient est structuré comme un langage. L'inconscient, ce n'est pas trouver des trucs comme ça, quelque part. Ce n'est pas du tout ce qu'on appelle l'inconscient. Et puis, quand ça peut advenir, quand on peut toucher à ça, à certains moments, eh bien, effectivement, quelque chose d'autre peut, tout à coup, s'ouvrir. Voilà, on va s'arrêter là.